Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette première émission Vivante Église après une longue série de rediffusions. J'aurai ainsi la joie de vous retrouver deux fois par semaine avec Nathalie Cardon et Éric Dupri pour deux autres émissions hebdomadaires. Depuis dimanche de Pâques, les Alléluia retentissent dans nos églises et dans nos cœurs. Le Christ est ressuscité et quoi de plus beau que de le chanter à pleine voix. Nos invités de ce jour en témoignent. Autour de ce plateau, j'ai la joie de recevoir Jean-Luc et Anne Forêt. Bonjour.
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 Vous avez créé une chorale commune à trois églises d'Aveyron. Un concert le 7 avril à Honnête-le-Château en sera l'aboutissement. À vos côtés, Jean Persil. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé en 2020 la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Elle chante notamment les Vêpres tous les dimanches diffusées sur Radio Présence. Et puis, il y a aussi différents chœurs qui animent les messes et se produisent en concert. Merci à tous trois d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Nous sommes entrés dans le temps pascal. Spontanément, quand je vous dis temps pascal, quelle musique vous vient spontanément à l'esprit pour évoquer la résurrection du Christ?
Bon, je pense qu'effectivement, si je dois m'exprimer en premier, ce sera pour moi l'oratorio de Handel.
Oui, le Messie.
Ça me paraît évident, oui, tout à fait, pour cette période-là. Ça, c'est sûr que cette œuvre-là marque effectivement les fêtes pascales. Et... avec un final comme l'Alléluia ne peut que réjouir nos âmes et nos cœurs dans cette période.
Nous l'écouterons en pause musicale. Jean Percy.
Mais je pensais à la même chose puisque j'ai choisi cet extrait, évidemment. Alors en plus, c'est un peu ambivalent parce que certes, ça a été composé pour la résurrection, mais la tradition s'est un peu perdue. Et en fait, aujourd'hui, il est pas mal repris pour l'Avent aussi. Donc, il faut savoir que c'est une œuvre qui n'est pas liturgique. En fait, ça retrace pas mal la vie du Christ. Mais initialement, Handel l'a bien écrit pour la résurrection. C'était le but premier. Moi, je pensais à d'autres pièces extraordinaires. Je pense au Et Resurrexit de la messe en si de Bach, qui est absolument merveilleux, dont la virtuosité est capable de montrer cette joie qui s'élève vers le ciel.
C'est vrai.
Magique, et il y a d'autres bien entendu pièces, des Jubilate Deo, etc. Enfin, il y en a toute une tripotée si j'ose dire, mais là le répertoire est bien entendu très vaste.
Heureusement que le temps pascal dure jusqu'à la Pentecôte, comme ça permet d'écouter toutes ces œuvres. Vous êtes tous les trois de grands musiciens. Jean Persil, vous êtes chef du grand chœur de la Schola Cantorum lors des offices et solennités, vous êtes aussi pianiste et organiste. Anne Forêt, vous êtes violoniste, professeur au conservatoire de l'Aveyron et chef de chœur. Et enfin Jean-Luc Forêt, vous êtes chantre de l'église de Villefranche de Rouergue, nous arrivez tous deux d'Aveyron, ne l'ai-je pas précisé. En quoi le chant est-il pour vous une expression de votre foi? Anne?
Je vais bien commencer. Pour moi, le chant est vraiment la partie, je dirais, intégrante de ce que je vis dans ma foi et de ce qu'elle élève mon âme. Je considère que le chant, pour moi, fait partie vraiment d'un passage où je me mets vraiment et je me rapproche, je dirais, de l'Esprit de Dieu et de sa présence. Et qu'elle me permet, à travers le chant, là aussi, de me rapprocher en même temps. C'est-à-dire de pouvoir lier les deux choses. C'est-à-dire que le Père m'attend dans ce moment de louange et moi, je me rapproche de lui. Et je pense que le chant, c'est vraiment l'expression de mon cœur, c'est l'expression de mon âme pour Dieu et pour l'élever. Et ça, c'est, je pense, une très, très, très belle chose. De pouvoir avoir une voix qui permet de louer Dieu dans le chant.
Mmh. Ça, c'est pour moi important. Et qui fait finalement le pont entre vous et Dieu.
Tout à fait. C'est un moment privilégié de dialogue entre Dieu et nous. Et c'est par le chant que je le vis le plus, bien évidemment. Mais qu'il est vraiment... Oui, c'est un échange, je dirais, intime. Intime et la voix et l'instrument que Dieu m'a donné pour l'honorer, le louer, tout à fait.
Mmh. Anne Forêt, en quoi le chant est-il pour vous une expression de votre foi?
C'est des fois, vous savez, on a du mal à trouver les mots pour s'exprimer dans la prière, et des fois, la musique élève l'âme et remplace les mots qu'on saurait dire avec peut-être maladresse. Et c'est vrai que, comme disait Bach, in soli Deo gratia. D'abord, la gloire de Dieu, en premier, dans la musique.
Jean Persil.
Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment parce que deux fois a été employé le mot âme. Donc en fait, oui. Si on fait un peu de latin, l'anima, c'est le souffle. Et en vérité, bien sûr, il y a un rapport intime entre le chant et le souffle, notamment si on doit faire ça avec le grégorien, je crois que c'est le plus évident, avec cette musique du souffle et du naturel, où il y a cette espèce de côté naturel, finalement, de chanter. Chanter, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Plus ou moins bien, je vous l'accorde.
Oui, j'allais vous dire, tout le monde ne chante pas juste.
Cependant, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Et il y a cette expression, en fait, du naturel et de la foi qui vient naturellement, tout simplement parce que c'est le langage de l'âme, du souffle. Et ça, je trouve que c'est assez beau parce que, eh bien, tout un chacun le possède, tout un chacun peut l'exprimer. Et c'est ça qui est vraiment le lien entre l'âme et la foi qui s'exprime par le chant. Pour moi, c'est le véhicule premier, le véhicule le plus facile, finalement, à prendre.
On a l'impression, en vous écoutant, Jean Persil, que finalement, le chant a une valeur universelle. Et finalement, il permet de rendre accessible. Et vous disiez aussi, Anne Forêt, de dire des choses que vous n'arrivez pas forcément à dire. Ça fait penser au psaume.
Oui, et puis c'est la musique et le langage qui nous réunit tous. Même si on ne parle pas la même langue, il suffit qu'on fasse de la musique tous ensemble. Et rien qu'avec l'esprit, avec le feeling, on est tous ensemble portés.
Je vous ai vu un peu tiquer quand j'ai dit langage universel.
Alors, c'est surtout un langage de l'ineffable. En fait, on dit ce qui n'est pas dit avec la musique.
C'est vrai.
Et je trouve que c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est de loin l'art le plus inaccessible, parce qu'on ne dit rien, mais on dit tout. C'est cette espèce d'ambivalence qui est extraordinaire parce que par le biais, souvent, bon, pendant longtemps ça a été celle de l'harmonie, alors aujourd'hui on peut discuter, on peut faire de la musicologie et c'est différent, mais par le biais de l'harmonie ou de la beauté, qui était lié pendant fort longtemps, eh bien, il y a cette espèce de... en fait, tout le monde est d'accord. Et il y a... encore une fois, ça rejoint l'aspect naturel. En fait, c'est ni plus ni moins que de la physique, mais mis bout à bout, il y a cette espèce de supplément d'âme qui élève, effectivement, parce que ce n'est pas de la physique bête, j'ai envie de dire. C'est tout simplement quelque chose qui va plus loin. Et le langage est universel, certes. Il reste ineffable. Donc inaccessible, mais en même temps, il parle à chacun. Enfin, c'est un paradoxe incroyable que nous autres, nous devons de servir avec humilité, parce que c'est bien entendu très difficile, mais c'est quelque chose auquel on a à cœur de faire, je pense, chacun dans notre mission de musicien liturgique.
Alors, je voudrais qu'on parle justement de la Schola Cantorum. Elle est composée de différents chœurs, la maîtrise, le grand chœur, le chœur grégorien et le chœur d'homme. Jean Percy, qu'est-ce que chacun de ces chœurs apporte en particulier à la liturgie?
Eh bien, ils apportent quelque chose de nouveau. Nouveau dans l'ancien, en fait, j'ai envie de dire. Il est vrai que depuis le Vatican II, finalement, on a beaucoup réfléchi sur la liturgie, puisqu'il a été décidé des choses capitales, à savoir de faire la messe en langue vernaculaire. Forcément, la musique a changé. On devait plus faire de latin, mais on devait faire du français. Enfin, là, je parle du cas français, hein, typiquement français. Également, bon, l'office a changé, la façon de chanter a également changé. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement différentes. On n'a plus, par exemple, comme sous Louis XIV, un grand motet en plein milieu de la messe qui durait une heure. On n'a plus quelque chose pendant l'élévation, etc. Donc, la liturgie est vivante. Et donc, nous, on s'était dit qu'en fait, c'est exactement comme quand vous regardez un vieil édifice. On se dit, il y a des nouvelles choses qui existent avec le nouveau répertoire, avec ce qu'a voulu Vatican II, mais il y a un bâti, un existant. Et le but du jeu, c'était de recontextualiser cette musique dans la messe moderne. Et ça, c'était pour nous
un sacré défi.
C'est un sacré défi parce que je peux vous dire que c'est compliqué parce qu'on peut être vu d'un mauvais œil, c'est-à-dire que comme des grands conservateurs, etc., ou même des traditionalistes purs et durs, moi, je trouve que dans la tradition, il y a de belles choses aussi. Et finalement, étant donné qu'on fait forcément, depuis tout à l'heure, on a fait référence à de la grande musique, ce sont des choses qui ont précédé, et en fait, il serait dommage de le détruire. Aujourd'hui, on ne va pas lapider des vitraux parce qu'ils ne sont plus au goût du jour, ça me semble aberrant. Donc nous, l'objectif, c'était avec ces quatre chœurs qui ont chacun leur spécificité, de pouvoir dire que ce répertoire existe et de le recontextualiser tout simplement pour que les gens puissent en profiter. Alors Saint-Sernin, comme on a beaucoup de messes, il y a d'autres messes qui sont là aussi beaucoup plus avec tout type de répertoire finalement, mais la Schola a à cœur de faire ça. Alors néanmoins, on reste dans les préceptes de Vatican II, à savoir nous sommes vigilants à composer, faire composer, recevoir des chants qui sont chantables par l'Assemblée, ce qui est vraiment le point le plus important pour nous. Mais à côté de ça, voilà, un beau motet de Bach, de Mozart, de Reinberger, après la communion, est tout aussi porteuse de sens, notamment parce que, et ça a été rappelé par le pape, il y a une place sacrée du silence Et ça, c'est encore un autre paradoxe, la musique fait partie du silence dans la liturgie. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle le prolonge, elle l'enrichit, elle le sublime, et en fait, nous, on essaie de montrer et de porter la prière à ce moment-là avec notre chant, et si on arrive, bingo, le tour est joué, quoi.
Oui, ça, c'est un sacré défi de jouer de la musique et de se dire que c'est un temps de silence.
Oui, mais c'est, encore une fois, c'est... Alors moi, je vais citer l'un des musiciens que je trouve les plus forts pour moi. Il s'agit de Sergiu Celibidache, qui était l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, qui disait que la musique n'apparaissait pas, elle surgissait. Bon, il le disait en allemand, et en fait, en allemand, il y a beaucoup de philosophie derrière. Lui, il avait fait pas mal de phénoménologie, et en fait, il y a cet aspect de les premiers accords proviennent du néant, et en fait, finalement, les derniers accords retournent au néant. Il était dit aussi par Boutade que le silence qui suivait les notes de Mozart était toujours de lui. Et en fait, il y a cette espèce de continuité du silence qui fait qu'en fait, les gens qui assistent à l'office, ils sont dépossédés de rien du tout, en fait, quand ils écoutent. C'est pas parce qu'on est passif qu'on n'est pas actif, finalement. L'écoute peut être active, et belle, et même exigeante. J'oserais même le dire. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est au service de la prière et parce que le beau vient nous interroger. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos mondes contemporains, on y est peut-être un tout petit peu moins sensible de prendre le temps, de s'arrêter, d'être en silence et de profiter de la beauté qu'on peut nous offrir parfois.
Oui, et puis on a aussi du mal à s'arrêter pour écouter, ne serait-ce qu'une œuvre en entier. C'est vrai qu'on l'écoute en faisant autre chose, mais c'est difficile.
La messe est un moment privilégié pour cela. C'est-à-dire qu'on est un peu hors du temps, même hors de l'espace. À partir du moment où on est dans des édifices qui sont souvent vieux, il y a cet aspect intemporel, uchronique presque, où on se dit, mais où est-ce qu'on est? Et c'est là où on peut offrir quelque chose. Et selon moi, c'est une véritable catéchèse et qui est très précieuse.
Alors, tout autre projet, Jean-Luc Anne-Forêt, vous avez souhaité faire chanter ensemble les catholiques, les évangéliques et les protestants d'Aveyron. Qu'est-ce que chacun a apporté à la musique commune, selon sa foi?
Alors, je dirais pas qu'ils ont apporté chacun. Je dirais qu'ils se sont surtout retrouvés autour d'une même envie et d'un même souhait. Je reviens sur ce que disait Jean il y a quelques temps là. Simplement, c'était de dire de profiter de ce moment pour avoir effectivement un moment de louange et de prière, mais par la musique et par le chant ensuite. Et ces trois identités-là ont parfaitement compris l'objectif qu'on avait fixé, qui était de dire, voilà, on reprend, alors, on a repris des œuvres de Bach, qui nous paraissaient des bons moments, où effectivement, l'âme s'élève, mais la prière suit derrière, dans ces moments où Bach était... magnifique dans son écriture, parce qu'il y a des moments où il élève par le chant l'être et l'âme, et par moments il la remet un petit peu plus bas et la remet dans la prière, dans ces moments d'écoute, dans ces moments où la musique prend par-dessus la voix. Et ce que j'ai aimé, ce qui a été vraiment beau dans ce projet, c'est de voir que ces trois identités-là ont parfaitement compris le message et quel était le rôle de la musique qu'ils avaient, chacun, dans leur esprit, de pouvoir dire, mais en fin de compte, on a une valeur commune, c'est le chant et la musique qui nous élèvent et qui nous rapprochent de Dieu. Ils ne sont pas venus avec leur identité, ils ont compris ce message-là, ils l'ont accepté pour ceux qui sont aujourd'hui et qui seront demain au concert, et d'avoir vraiment cet esprit de dire, en fin de compte, nous nous mettons au service du chant et au service de Dieu par le chant. Si bien qu'aujourd'hui, ces trois identités-là, si vous ne les connaissez pas et que vous ne connaissez pas les gens, vous êtes aujourd'hui incapable de le voir.
Il n'y a pas de distinction.
Il n'y a pas de distinction. Il y a une vraie communion. Et c'est ce en quoi vraiment nous sommes, Anne et moi, en tout cas, très contents. Parce que c'était notre prière de départ. C'était d'avoir vraiment une chorale de communion entre des chrétiens, quel qu'il soit.
Anne, vous êtes chef de chœur. Comment avez-vous réussi à créer cette unité aussi et à faire avancer chacun vers ce but commun de prier ensemble?
Ça s'est fait tout naturellement. En fait, ils sont venus et on a commencé à travailler ensemble. Enfin, il n'y a pas eu de difficultés en premier.
Comment vous les avez fait travailler?
Alors, on s'est rencontrés une première fois
Il a fallu dédramatiser, je dirais, un petit peu la chose, quelque part. Quand je dis dédramatiser, c'est-à-dire de s'apercevoir que dans le regard qu'on avait en face,
la plupart étaient...
les trois personnes, c'était un petit peu l'inquiétude de savoir qu'est-ce qu'on va vivre, comment on
était. Voilà. On n'est pas professionnel, on n'est pas... Voilà, c'est ça.
Il fallait mettre à l'aise.
Il fallait les mettre à l'aise et les faire passer tranquillement, on a mis un an, de les faire passer, de ce stade qu'ils étaient amateurs à aujourd'hui des amateurs très confirmés.
Dans le sens noble du terme.
Dans le sens noble du terme. Dans le sens où vraiment, c'est des gens qui ont vraiment eu ça à cœur.
Et qui ont travaillé.
Qui ont travaillé.
Oui,
parce
tout
que
à fait.
On leur a demandé beaucoup. On leur a demandé beaucoup.
Oui,
mais
que...
ce qui était très, très beau dans cette réalité-là, c'était de voir vraiment que les gens ont très rapidement ouvert les yeux. La première rencontre, il y a un an, quasiment jour pour jour, on a découvert les voies. D'abord, la chose qu'on a fait, c'était de découvrir les voix de chacun.
Et vous avez constitué les pupitres, alors.
Voilà, tout à fait. Donc, on a constitué un cœur à quatre.
Et à ce moment-là, voilà. Bien, effectivement, l'osmose, c'est vraiment presque faite, je dirais, grâce à ça. Et on a allié le chant avec la prière individuelle. C'est-à-dire qu'on commençait vraiment nos moments en priant tous.
Mais chacun personnellement.
Chacun personnellement.
Silence,
il y avait
alors.
Une seule voix. Mm-hmm. Généralement, c'était moi qui présentais ce moment-là. Et de dire, voilà, nous formons une seule famille, et ce grâce à la musique, grâce au chant. Et petit à petit, on a vu, le train, on pourra pas appeler ça puisqu'il y a trois wagons, mais vraiment monter ensemble, prendre la même direction, s'unir ensemble, travailler ensemble, évoluer ensemble, pour arriver au résultat que les gens qui viendront vont découvrir le 7.
Le 7 avril. Avant notre pause musicale, je voudrais vous poser une question, Jean-Persil, puisqu'on parle de la musique à laquelle on aboutit par un travail, par une exigence. Est-ce que vous, dans le travail de la Schola Cantorum, c'est aussi un point qui est extrêmement important?
Oui. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc là, on a fait référence aux gens qui arrivent. On connaît pas. Il a été dit, on découvre les voix.
Oui.
Et ensuite, il y a ce truc incroyable. C'est vrai qu'on arrive. Alors, ça fait 15 ans qu'on fume. On a eu un accident il y a 2 semaines. Au contraire, tout s'est bien passé, etc. Chacun arrive avec son bagage. Et les voix sont marquées par cela. Ça, c'est une évidence. Ensuite, là, il y a la morphologie, etc. Il y a le travail. Il y a beaucoup de choses. Et finalement, le travail, il est là pour ce côté extraordinaire d'harmonisation au sein du cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'arriver chacun avec son identité quand on chante. Il y a ça dans une certaine mesure, mais on va devoir s'effacer derrière la musique. Vous rendez bien compte que quand vous avez un pupitre, par exemple, si je prends les basses, 10 basses, eh ben, chacun ne peut pas arriver avec son propre timbre. Ils vont devoir se marier. Et en fait, il y a cette espèce de côté de travail qui va permettre cette osmose, ça a été employé, cette communion. Et en fait, chacun va devoir s'effacer au service de la musique. Et ça, c'est ce que je trouve être le plus beau, parce que vous avez un pianiste, il va arriver avec son jeu, il va arriver avec un instrument. Non, la voix, ça va être extrêmement différent. Déjà, elle va changer en fonction de tel ou tel répertoire que l'on va aborder. Et en plus, il y a quand on va être face, donc par exemple, je ne sais pas, si 40 personnes, on va dire une chorale assez costaud, eh bien là, il va falloir qu'il y ait un timbre de voix qui soit assez uniforme. Et ça ne s'acquiert que par le travail, que par un côté où on va se déposséder. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que c'est un bel exercice d'humilité où on se met au service de la musique, on se dépossède de ses atouts pour faire quelque chose qui nous dépasse. Ça, je trouve ça assez sublime. Et ça, on trouve ça que dans les chœurs parce que les solistes, eux, ils font la pleine voix de ce qu'ils savent faire, de leur savoir-faire qui est d'ailleurs souvent extraordinaire. Mais là, il y a, dans le chœur, c'est quelque chose d'extrêmement différent et je trouve très beau. Et c'est pour ça que le travail, là, pour le coup, est assez important pour avoir cette unité, cette cohésion, cette communion.
Et cette humilité. Je vous propose de marquer une pause en écoutant Semaine de Pâques oblige l'Alléluia de Handel. Nous en avons parlé en commençant cette émission. Alors écoutons-le pour nous régaler, nous imprégner de cette belle œuvre.
présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Vous l'aurez reconnu et peut-être fredonné dans votre tête, c'était l'Alléluia de Handel interprété par les Arts Florissants sous la direction de Paul Agnew. C'était le 16 décembre 2023 à la Philharmonie de Paris. Un mot peut-être sur cette œuvre avant de poursuivre notre échange sur la place du chant dans la liturgie, Jean Persil.
Moi, ce que je veux faire, c'est un tout petit peu d'exégèse, parce qu'une fois qu'on... Enfin, ça, c'est le problème des tubes. On les a tellement écoutés qu'on les entend plus, finalement. Et ça, c'est dommage. Vite fait, pour en parler, donc effectivement, ça tient place dans un oratorio gigantesque de 2h30 qui s'appelle Le Messie, qui est, je pense, le sommet musical chez Handel, l'un des sommets musicaux chez Handel. Et il y a, dans la forme musicale, quelque chose d'assez... extraordinaire. Bon, alors déjà, d'un point de vue de l'écriture, quand on prononce Alléluia, qui est un mot extrêmement léger, le double L notamment, on allège comme ça, et en fait, chanter un double L, c'est toujours très agréable, très aérien, il y a ce côté jubilatoire. Le rythme également, l'instrumentation, vous aurez reconnu les timbales qui viennent rythmer, les trompettes de la résurrection, qui viennent en fait tout simplement sublimer ce côté-là. Et en fait, c'est vrai que quand on a ces petites clés de lecture, bon, bien sûr, je pourrais aller beaucoup plus loin, je pourrais parler de la petite fugue qui se situe au milieu, la fugare, ce qui veut dire la fuite, là, qui n'est pas du tout péjoratif, c'est quelque chose de... En fait, c'est une escalade vers le ciel qui porte vers le ciel, vers les cimes. Et bien sûr, quand on a toutes ces petites clés de lecture, on se dit, oh punaise, je le redécouvre. Et c'est vrai qu'une œuvre comme celle-ci mérite beaucoup d'attention. Et à mon avis, bon, écoutez tout le Messie, hein, pour vous faire une idée. Mais effectivement, cet Alléluia, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qu'il faut redécouvrir, je pense, par ces petites clés de lecture. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre et ça témoigne bien de la résurrection.
Anne et Jean-Luc Fauret, vous voulez ajouter quelque chose sur ce Messie de Handel ?
Je crois et je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean, mais je suis aussi profondément persuadé que Handel était vraiment inspiré pour écrire cette œuvre-là.
Oui, parce que pour la petite histoire, il faut savoir qu'il l'a écrit en 2 semaines.
Voilà.
Donc il était quand même relativement inspiré, je pense. Oui. Même
ça a été fulgurant.
Ah oui. Mais je pense que traduire la résurrection de Christ, effectivement, dans une œuvre pareille, en aussi peu de temps... pour ma part, ne laisse pas de doute que Dieu était là et lui a donné vraiment le sens de l'écriture. Pour ça que cette œuvre est magnifiquement bien écrite et très belle. Et je suis d'accord que des fois, on passe à côté parce qu'elle est tellement connue qu'on ne fait plus des fois attention aux petits détails qui figurent dans, je dirais, l'œuvre complète qui est l'oratorio, mais aussi dans ce final qu'on vient d'entendre. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ce Alléluia, effectivement, élève énormément et concrétise, je dirais, effectivement, ce que nous, chrétiens, nous vivons, c'est-à-dire cette résurrection, qui est non pas quelque chose de triste, au contraire, mais qui est un espoir pour nous, chrétiens, qui est une vie nouvelle qui nous attend, de pouvoir dire un jour, moi, je serai content un jour d'être dans les cieux avec lui et de le chanter.
Oui, ça célèbre
avec des voix
victoire
aussi parfaites.
Ah oui. Revenons sur cette démarche d'humilité dont vous parliez, Jean Persil, dans le chant où chacun doit ajuster sa voix à la voix des autres et se mettre au même tempo. Jean-Luc Fauret, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de cette posture.
Oui, alors je confirme tout ce qu'a dit Jean, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je rassure. Mais non, je pense qu'effectivement, il y a une forme d'abandon. Je crois que ce qui est très important, c'est que, effectivement, pour que la chorale passe un message, et ce message authentique de la foi et de l'amour du Christ et du Père dans le chant, il y a effectivement, le choriste n'est pas soliste. Le choriste doit s'abandonner dans cette chorale pour traduire le chant et le donner, le redonner aux personnes qui sont en face et qui vont écouter cette œuvre-là. Effectivement, comme dit Jean, on vient avec notre histoire, mais notre histoire doit s'effacer, voire même s'abandonner pour vraiment laisser place au message que le chant donne. Et ça, pour moi, c'est important et c'est ce en quoi la valeur d'une chorale par rapport à un soliste c'est-à-dire qu'elle est totalement dans le chant, elle n'est pas avec le chant. La chorale s'est abandonnée pour que le chant devienne quelque chose de profond, de fort, d'intense et d'intime. Et que derrière cela, mais effectivement, elle laisse la place à la prière. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je rejoins tout à fait ce que disait Jean. Je suis entièrement d'accord sur tout le reste.
Donc finalement, il y a double abandon. Il y a un abandon pour être au diapason les uns des autres. Et puis un abandon pour être au service de ce qui est chanté. Et notamment des paroles qui sont souvent des paroles qui proviennent de textes bibliques.
Absolument, ben c'est tout l'art des grands compositeurs d'ailleurs, c'est de mettre la musique au service du texte, parce que souvent la chose qui prime, c'est le texte. Mmh. Et quand la musique prend le pas, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose d'un petit peu raté. Il faut savoir que les grands musiciens, on a cité tout à l'heure l'acronyme SDG, Solideo Gloria, et effectivement, à partir du moment où on est capable de signer, ça c'était Bach, il n'était pas le seul d'ailleurs, Bruckner le faisait, et d'autres également, mais à partir du moment où on signe même ses cantates profanes, avec cet acronyme-là, oui. C'est qu'on est tout à fait capable de se dire, bon, et ça, tout à l'heure, ça a été dit aussi, il y a cette espèce d'inspiration qui vient, et souvent, ça vient de ces textes, là aussi, dont la mémoire est gigantesque, qui ont traversé les siècles. Aujourd'hui, quand vous prenez, on vient de parler d'Alléluia, mais enfin, Alléluia, des dizaines et des dizaines de compositeurs en ont composé, et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir leur sensibilité, ce qu'ils ont mis derrière ces paroles-là, et comment faire pour que ça serve le mieux. Donc, cet abandon-là vient aussi de la part du compositeur qui a voulu se dire comment vais-je servir ce texte-là. Et mine de rien, même avec une œuvre aussi gigantesque que le Messie de Handel, il y a une part d'humilité.
Tout à fait.
Le 7 avril, le concert Église en chœur réunira les trois églises d'Aveyron et la Symphonie chrétienne, un orchestre œcuménique. Comment est née cette idée, Jean-Luc et Anne Forêt?
Oh, elle date de fin d'été 2022. Je reçois un courrier qui émane de la chef de chœur et de la présidente de cet orchestre symphonique chrétien, qui est Sabine Diaz, qui souhaitait à l'époque me dire, voilà, c'est bien, on fait beaucoup de concerts sur Paris et l'Île-de-France, mais on voudrait un petit peu sortir de nos frontières. Et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu peux proposer? Et alors là, j'ai dit, bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je me mette un petit peu à l'œuvre et que je réfléchisse, que je considère un petit peu l'apport d'un orchestre sans que cet apport-là soit au détriment de quelque chose et que ce soit un complément. Et j'ai l'avantage d'avoir une femme qui est musicienne et qui a un très bon niveau, qui a une oreille parfaite et donc ça aide. Et en discutant ensemble, on s'est laissé le temps de la réflexion, de faire mûrir le projet, l'idée, d'aller dans quelque chose, et puis, pas comme un compositeur, mais en tout cas, je me suis laissé inspirer dans la prière, et j'ai dit, écoute, voilà, s'il y a quelque chose sur lequel je peux venir, avec cet orchestre, apporter un message, et j'ai dit, montre-le-moi, et est arrivé en discutant vraiment cette idée d'une chorale. Et j'ai dit, mais ce qui serait beau, et j'avais cette idée de Pâques, c'était de faire une chorale chrétienne, sans aucun isme derrière, qui réunit trois familles, on va dire. C'est comme ça que ça se passe dans l'Aveyron. Alors ailleurs, ça aurait pu être quatre ou cinq, peu importe. Mais, et de créer vraiment cette osmose, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment d'avoir dans ce lien d'amour fraternel, ce développement de la chorale et de l'orchestre. C'est venu comme ça. Et j'en ai parlé aux différents pasteurs qu'il y a dans l'Aveyron et à Monseigneur Luc Meyer, l'évêque, qui m'ont tout de suite dit « Mais quelle idée fantastique! Vas-y, on te soutient, fonce !» J'ai dit « Bon, bah, si tout le monde le prend de cette manière-là, je n'avais plus qu'à mettre, mon brouillon au propre. » Et c'est ce qu'on a fait ensemble avec Anne. Anne s'est chargée de réharmoniser tous les chants en chorale quatre voix et en orchestre symphonique. Donc on y a passé, 4-5 mois à tout réécrire, à tout revoir, tout repenser. Alors sauf, on en a qu'on n'a pas touché.
Je ne touche pas.
C'est le choral Jésus que ma joie demeure.
Voilà, il y a le choral et il y a
le choral de la passion.
C'est pas si mal écrit finalement.
Non, on ne touche pas.
Je suis d'accord avec toi.
Effectivement,
non, l'écriture est magnifique, le chant et les paroles sont merveilleusement belles. Elles portent, elles transportent, elles emmènent. Et voilà. Et c'était autour, donc ça s'est passé de cette manière-là. Et c'était dans cet esprit-là que je suis venu l'apporter aux trois églises qui sont dans l'Aveyron, d'amener ce projet-là, et où on a eu tout de suite, près de 60 personnes qui sont venues s'inscrire. Alors bon, on a gentiment fait comprendre à certains que c'est bien de rentrer, d'avoir toute son envie de rentrer dans une chorale, mais vaut mieux chanter juste.
Ça, c'est toujours délicat, non ?
C'est toujours très, très délicat, mais ça, j'ai fait confiance à ma femme, je l'avoue, pour l'expliquer. Et aujourd'hui, voilà, il y a à peu près 45-50 choristes qui sont là depuis le début et qui aujourd'hui ont travaillé sur 12 chants qu'on a vraiment repris complètement pour les amener dans un message complet de la période de Pâques. Hein. Il y aura trois thèmes de quatre chants qui parleront de Jésus et du Père, qui auront cette filiation sur une écriture complète hein, pour une chorale à quatre voix.
Mmh. Anne Fauré, vous avez réécrit finalement cette musique parce qu'en fait, ce n'était pas forcément des chants qui étaient faits pour être chantés à quatre voix.
Non, exactement. C'est en fait, je suis diplômée d'État et agrégée, et donc dans le domaine de mes compétences, j'ai fait donc de l'harmonie, de l'écriture, histoire de la musique, tout ça, orchestration. Et donc, ça tombait dans mon domaine de compétences. Et donc, c'était des chants à une voix, souvent. Et donc, je les ai réharmonisés à quatre voix, voilà, selon mes envies. Et souvent, j'ai essayé aussi de faire qu'il n'y a pas que les sopranos qui ont la mélodie tout le temps. Donc, j'ai essayé aussi que...
Ça a dû râler.
J'ai arrangé un petit peu pour que tout le monde voilà, ait son petit moment de sympathique de solo. Et j'ai et voilà, donc j'ai mis 3 mois d'abord à faire les arrangements à 4 voix des 10 chants. Et puis après, j'ai fait aussi un arrangement pour orchestre symphonique, voilà, pour chaque instrument. Voilà.
Et de quel répertoire proviennent les chants?
Oh, ils viennent c'est de partout, de tous les horizons. Oui. On n'a pas été, je dirais,
gallois.
Uniquement dans un registre. Nous avons pris des chants qui viennent de du côté anglican, donc les chorales anglaises, que les gens doivent certainement bien connaître, et les œuvres des chorales anglaises que l'on entend souvent. Enfin, moi, je sais que j'écoute beaucoup, des fois, sur BBC et autres, des chorales qui ont des chants magnifiques. Donc, on a pris dans ce domaine-là. On a pris des chants qui sont tout à fait classiques. Comeback, que l'on a pris. On a pris des chants côté aussi bien catholique. On a un exemple très, très simple que nous chantons, nous aussi, dans nos églises. C'est Glorious, que vous devez certainement connaître un peu.
Le groupe de pop louange.
Voilà. Et qui sont, moi, aujourd'hui, dans nos répertoires, même côté protestant, et que nous avons réécrit complètement, repris à 4 voix. On a fait on a repris du Negro Spiritual. Enfin, on a vraiment été dans l'univers le plus large possible. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'objectif de départ, c'était de ne pas contrarier personne dans son intimité.
Et que chacun retrouve un petit peu ses petits.
Mais voilà, et c'est ce qu'on a voulu. Et c'est
que le public aussi soit content de venir nous écouter.
C'est pour ça que c'est un travail qui a été long, hein, puisque quand je vous dis ça, donc, ça a été fin d'été 2022, les premières répétitions, c'était avril 2023. Donc vous voyez, on a pris tout ce temps-là pour vraiment mettre en place tout un programme. Aujourd'hui, on a une bibliothèque d'un peu plus de 50 et quelques chants, donc on a encore de quoi puiser et de travailler. Ça, on en est conscient, mais c'est vraiment de permettre d'offrir à chaque identité vraiment une reconnaissance et de pouvoir participer surtout. Ce qu'on a souhaité dans ce concert, c'est qu'il participe.
Que le public participe.
Le public participe. Mmh. Donc, on a sélectionné 3 chants qu'on va reprendre avec l'ensemble du public. Et ce sont des chants dans lesquels ils vont se reconnaître tous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a Amazing Grace, qu'on a réécrit à 4 voix avec instruments aussi, qui va être repris par l'ensemble. Je pense que c'est un morceau qui parle au cœur, je dirais, et qui a vraiment un témoignage très fort dans les paroles. On va reprendre Notre Père de Glorious, qu'on a vraiment réécrit là aussi, pareil, pour une chorale. Mais voilà, et le troisième, je ne sais plus, le premier, c'est Louez-le. Là aussi, de Glorious, voyez-vous. Comme quoi, non mais on est, voilà, il n'y avait pas d'envie d'être que sur
un style, un type de musique.
Ou un type de musique, non. Nous l'avions ouvert très large. Et c'était aussi pour montrer aux choristes ce dont ils étaient capable à la fin de faire, alors qu'ils étaient tous en dire, mais est-ce qu'on est vraiment capable? Je dis, laissez-vous aller, nous on va vous donner les armes, on va vous apprendre, on va vous donner ce qu'il y a. Et puis je dis surtout, laissez-vous prendre par l'Esprit de Dieu, laissez-vous inspirer par lui, vous allez voir vos voix vont devenir des vrais instruments. Puis on va travailler la justesse, la finesse, le grain, tout, on va tout travailler. Nous on va vous donner les armes, vous inquiétez pas. Mais laissez-vous guider.
Oui, il faut aussi un peu de lâcher prise.
Mais bien sûr.
Oui. Dans ce sujet de la participation de l'Assemblée, vous en parliez un tout petit peu, Jean Persil, au début de notre émission. Comment vous arrivez à équilibrer la participation de l'Assemblée et puis l'interprétation d'un certain nombre de morceaux par les chœurs?
C'est l'instant politique.
Ah, allons bon.
J'aime.
Tout instant politique, on va peut-être se battre. Mais les auditeurs de Radio Présence sont habitués avec Point d'Orgue, effectivement, et ils connaissent mon point de vue. Après Vatican II, la commission épiscopale de liturgie a écrit cette phrase, donc je vais me faire des ennemis, mais c'est la commission épiscopale de liturgie. Avant Vatican II, l'Assemblée ne faisait rien. Il ne serait pas bon que désormais elle fasse tout. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas jeter non plus à la poubelle ce qu'a demandé Vatican II et qui va, à mon avis, vers un bon progrès. C'est-à-dire, effectivement, une meilleure participation. Le problème, c'est que, à mon sens, et je suis loin d'être le seul qui soit de cet avis-là, la musique liturgique, et notamment française, le niveau a considérablement baissé. Et je trouve ça assez dommage. Déjà parce que nous avons d'excellents compositeurs. Et ensuite parce que, eh bien, ça prouve qu'en fait, il y a un savoir-faire qui est peut-être un petit peu en train de se perdre. Donc, alors d'autres ont eu ce constat-là. Par exemple, on sort d'un concert de Maurice Durufflet. Donc lui, il avait eu ça. Alors lui, c'était un fanatique de Grégorien, donc il l'a réharmonisé pour que ça soit, etc. Bon, il y a eu, voilà. Et donc, finalement, moi, je me suis dit, et c'est le travail que j'essaie de faire à Saint-Sernin, bon, après, je ne suis pas le seul, mais de se dire qu'il ne faut pas confondre simplicité et simplisme. J'en veux pour preuve, certains qui sont assez en avance sur le sujet, c'est nos amis allemands. Quand on sort un choral luthérien, alors moi aussi la participation, je me suis posé la question dans un concert. À Noël dernier, on a fait apprendre à toute la basilique Saint-Sernin un choral de Bach, et qu'ils ont sorti. Pourquoi ? Parce que rythmiquement parlant, harmoniquement parlant, la mélodie, etc. est très simple, c'est fait pour être repris. Alors eux en plus, ils chantaient déjà en langue vernaculaire. Comme quoi on peut faire de la musique dite savante, mais populaire. Et c'est pas un antagonisme. C'est pour moi très difficile à chaque fois qu'on oppose une messe soi-disant concert à quelque chose qui est en fait juste bien écrit et de qualité, et souvent qui sont bien inspirés, je pense, par l'Esprit Saint. Donc je me dis qu'il y a ce trésor à réserver, et ensuite c'est ni plus ni moins que la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'expliquer, parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on dit « écoutez, on va vous apprendre un choral de Bach », ça peut laisser un peu pantois. Mais en fait, les gens, pour peu qu'on explique, regardez là, le chemin musical qui est fait, voilà ce que ça veut dire. Et en fait, les gens prennent un plaisir génial à chanter ça et se régalent. Alors, ceci étant dit, après, on n'est pas obligé de faire du Bach. Nous, on fait appel à des compositeurs, par exemple Christopher Gibert, qui compose pas mal pour Saint-Sernin. Et en fait, on prend des choses assez simples. Mais là aussi, j'oppose simplicité et simplisme. Attention, on peut faire des choses simples, très facile, mais extrêmement belle, bien construite, bien amenée, et qui donne envie aux gens de participer, parce qu'effectivement, c'est beau, ça marche et c'est cohérent.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean Persil. Je signale le CD que vous avez récemment enregistré, le Requiem de Forêt, et le concert que vous donnerez le 20 avril à 18h à la chapelle des Carmélites via Crucis, de Leeds. Je remercie aussi Jean-Luc et Anne Forêt. Je rappelle donc le concert Église en cœur du 7 avril à 15h à l'église Saint-Joseph Artisan à Honnête-le-Château, qui réunira donc les trois églises catholiques, protestantes et évangéliques d'Aveyron, et puis l'orchestre œcuménique symphonique chrétienne. Merci à vous trois.
Merci.
Merci.